Frères et sœurs, cette troisième bougie de l'Avent indique que nous progressons vers Noël, ce qui doit en ravir plus d'un, parce que c'est l'occasion de pouvoir se réjouir de l'Évangile de Noël. Et l'Évangile de Noël nous atteste que la grâce et la paix ne sont pas simplement de belles paroles qu'il est évidemment facile de faire résonner dans un temple, mais que la grâce et la paix sont venues s'incarner en la personne de Jésus-Christ, ce qui signifie que la grâce et la paix, c'est quelque chose de possible dans notre histoire. C'est quelque chose qui est à portée de main, non pas de l'autre côté de la mer, pour que nous disions à Dieu qui nous l'ira chercher, non pas là-haut dans le ciel, pour que nous demandions à Dieu qui nous l'ira chercher. La grâce et la paix sont entrées dans notre histoire pour que nous puissions en vivre chaque jour. Et voilà ce que nous entendons célébrer ce matin par le culte. Alors levons-nous, frères et sœurs, pour chanter Dieu avec la première strophe du cantique 304, cantique 304, première strophe. Louons Dieu. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Car à travers l'histoire de Jésus-Christ, nous découvrons que tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Cette progression vers Noël nous fait découvrir que tu es l'espérance de l'univers, alors même que tu nous connais chacun par notre nom. Ainsi, tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Toi qui nous donnes à vivre cette grâce et cette paix pour que nous fassions découvrir à chacun qu'elle est disponible. Oui, nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, c'est-à-dire pour tout ce que tu as fait parmi nous par le Christ Jésus. Et c'est pourquoi sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. C'est au psaume 98, aux strophes 1, 2 et 3, que je vous propose de chanter Dieu, chers frères et sœurs, trois strophes du psaume 98. Alors, je pense qu'il y a une reprise qui n'a pas été faite. Ce que je propose, c'est qu'on le chante une fois a cappella, parce qu'en fait, je vois que vous connaissez la mélodie, et ça permet comme ça de voir à quel moment il y a la reprise. Est-ce que ça vous va? On essaie une fois a cappella, c'est Noël, il faut qu'on se lance un peu. Vous nous donnez un petit peu le ton, et on y va. Ça vous va, une dame? Le premier accord. Et on y va a cappella.
Nous avons cantique pour célébrer le jour. Levons pour nous un bras vainqueur. Le salut de Dieu se révèle, et nous les avons reconnus. sachant proche la nouvelle, jusqu'au bout du monde accouru.
Alors, on ne va pas le laisser comme ça. Je vous propose de reprendre juste la première strophe, et cette fois entièrement a cappella. Parce qu'elle a vraiment essayé de nous aider jusqu'au bout, mais ce coup-ci, on l'essaye vraiment a cappella, et on essaie de donner de la puissance vocale. Ça vous va? Qui entonne? Parce que ce n'est pas moi, ça va être catastrophique.
Entonne, entonne. Célébrer le Dieu Sauveur, ce qu'il a fait.
Eh bien voilà, prenons place et recueillons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, bien souvent nous avons préféré nos envies à ta volonté. Nous avons travaillé pour nous plus que pour ton royaume. S'agissant de l'amour, nous nous sommes aimés, mais avons-nous véritablement aimé notre prochain et toi-même? Alors, Seigneur, pardonne-nous de n'avoir pas changé, de ne pas nous être convertis à ton évangile, de nous être si souvent repentis en vain. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous aimes en dépit de tout, aide-nous à changer notre manière d'être. Et avec ton pardon, accorde-nous la force et la joie de mieux t'aimer et te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Chantons la deuxième strophe du cantique 304 en restant assis.
Thank you.
Voici, dit l'Éternel, selon le prophète Jérémie, voici, je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà, frères et sœurs, une parole qui rejoint notre prière de repentance pour nous faire intuitionner que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Autrement dit, que cette vie peut être extrêmement réjouissante. Et voilà ce que nous chantons avec la troisième strophe du cantique 304. Cantique 304, troisième strophe, levons-nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Christ, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu nous rend capable d'accomplir. Alors, répondons oui à cet appel de Dieu en exprimant notre foi en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne. Il est esprit. Il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Chantons le cantique 303, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 303.
Thank you.
Prenons place et prions avant de lire un passage biblique. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Et ainsi, nous avons entendu une parole qui vient de toi. Parfois, tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi à travers Jésus-Christ. Nous l'avons entendu dans ce livre que nous appelons la Bible. Nous sommes invités à y redécouvrir le trésor qui y a été placé pour chacun de nous. Fais-nous maintenant cette grâce d'une parole qui nous aide à mieux nous comprendre, qui nous aide à exister. Amen. C'est dans l'Évangile de Luc que je vais vous lire un passage. C'est au chapitre 19 de l'Évangile de Luc. Je vais vous lire les 10 premiers versets. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et il monta dans un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, chantons la quatrième strophe du cantique 304. Restons assis pour chanter cette quatrième strophe. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent, qui est cette progression indiquée par les bougies de l'Avent, qui montre que petit à petit, la lumière l'emporte sur les ténèbres, et d'abord l'expérience des ténèbres. Si nous nous réjouissons de Noël, c'est parce que nous ressentons de diverses manières les difficultés que nous avons à vivre, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les difficultés auxquelles d'autres que nous sont confrontés, mais qui nous atteignent quand même, parce que nous sommes solidaires les uns des autres. des difficultés, il y en a de différents ordres, et j'aimerais faire appel à votre mémoire. C'est toujours bon de faire travailler sa mémoire. Peut-être certains parmi vous, oui, je pense que certains parmi vous se souviennent de ce qu'il s'est passé le 20 mai 2012, en Italie. 20 mai 2012 en Italie. Alors, ce n'était pas un tremblement de terre politique, c'était un tremblement de terre sismique. Assez sérieux pour que la ville de Modène, qui était l'épicentre de ce tremblement de terre, connaisse une véritable catastrophe économique, parce que un producteur de parmesan a vu ses 360 000 meules de parmesan détruites. Le séisme a été suffisamment fort pour détruire les 360 000 meules de parmesan. La faillite était-elle inéluctable? En d'autres termes, cette parole de Jésus, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu », a-t-elle le moindre effet, le moindre impact sur cette situation réelle? Je veux dire par là que nous avons de superbes formules en Église, mais est-ce que dans notre vie quotidienne, elles fonctionnent? 360 000 meules de parmesan perdues, mes chers amis. Le Christ pouvait-il quelque chose pour cela? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous l'avons entendu et nous sommes globalement d'accord avec ça. C'est peut-être même le contenu essentiel de notre foi. Ce verset résume à lui seul la vie de Jésus. Et le temps de l'Avent, qui est le temps de l'advenue du Christ, nous oriente tout entier vers cette phrase qui exprime la vocation de Jésus. Peut-être faut-il quand même faire un petit détour par l'expression « fils de l'homme », car elle n'est pas toujours très claire. Jésus se présente lui-même comme le fils de l'homme. Il ne se présente pas comme fils de Dieu, il ne se présente pas comme Messie ou comme Christ, soit que l'on choisisse l'étymologie grecque ou hébraïque. Il se présente comme fils de l'homme. Eh bien, c'est une manière juive de dire qu'il est profondément humain. Fils d'homme, fils de l'homme, comme on l'a par exemple dans le livre de Daniel, ça veut dire que cette personne qui vient est profondément humaine. Et je dirais même pleinement humaine, entièrement humaine. Il n'y a rien d'inhumain en elle. Fils d'eux, c'est une expression hébraïque pour dire qu'il y a en quelque sorte une plénitude du terme dans la personne concernée. Donc quand on veut vraiment insulter quelqu'un, on dit « fils de chien ». Ça veut dire qu'il n'y a que de la bestialité dans cette personne. En France, on a d'autres expressions avec « fils d'eux », mais je vous les laisse. Fils de l'homme, voilà l'expression qui nous intéresse. Revenons à des choses qui correspondent à notre foi. C'est précisément ce que Ponce Pilate dira au moment du procès de Jésus, lorsqu'il dira « Idu anthropou, voici l'homme », en latin courant « ecce homo ». C'est-à-dire l'homme comme on n'en voit pas ailleurs, l'homme parfait en quelque sorte, l'homme pétri d'humanité. Non pas un homme, mais « o anthropos », l'être humain. Non pas simplement un homme au sens viril du terme, mais bien l'être humain chargé de toute l'humanité qui caractérise notre condition. Le Fils de l'homme vient. Il vient à la rencontre de Zachée, il vient à notre rencontre, il nous rejoint. Cela signifie que l'humanité vient à notre rencontre. Cette rencontre entre Jésus et Zachée, c'est l'humanité, au sens philosophique du terme, au sens théologique du terme, qui vient à la rencontre d'un homme particulier. Et cet homme, ce pourrait être nous. On pense souvent que c'est Zachée, finalement, qui va à la rencontre de Jésus. Et hier, il y avait la chorale gospel qui a fait retentir le cantique « Je vais à Jésus ». Et je pensais à cet épisode de Zachée, justement. L'épisode de Zachée dit tout le contraire. Ce n'est pas nous qui allons à Jésus, c'est Jésus qui vient à nous. Ce n'est pas ce que nous allons faire qui permet véritablement la rencontre avec Jésus, c'est parce que Jésus organise la rencontre avec nous que nous pouvons lui faire bon accueil. Alors vous allez me dire, mais quand même, le texte dit bien que Zachée voulait voir Jésus, et vous allez me dire, il monte même dans un sycomore, lui qui est un homme de petite taille. Alors oui, bien sûr, il voulait voir Jésus, comme on veut voir une bête de foire. On voulait voir à quoi il ressemblait, ce gars qui faisait du tapage autour de lui. On voulait voir la vedette, la star. Mais je parle de rencontre. Zachée ne voulait pas de rencontre, il voulait juste voir son idole. La preuve, c'est qu'il est monté dans un arbre. Alors vous allez me dire, s'il est monté dans un arbre, c'est bien qu'il a fait tous les efforts qu'il fallait pour qu'il y ait une rencontre. Mais pas du tout. Il n'est pas monté en chair, il est monté dans un arbre. Vous qui avez peut-être été scout, vous savez que de monter dans un arbre, c'est la meilleure façon de se cacher. Quand vous jouez à cache-cache, pourquoi on ne vous trouve pas ? Montez en l'air. On ne pense jamais à regarder en l'air. Peut-être avez-vous lu le livre de Boris Cyrulnik, Je me souviens. Il raconte à 6 ans comment il a échappé à une rafle, lui qui était juif, une rafle de la police française. Il est allé se cacher dans les toilettes. Et à l'époque, les toilettes étaient munies de chasses d'eau. Et les chasses d'eau étaient en hauteur. Vous vous souvenez, il fallait tirer sur la chaîne. Il est monté, il s'est caché sur la chasse d'eau. Et quand les gens ont ouvert, ils n'ont vu personne parce qu'ils n'ont pas pensé à lever la tête. Monter dans un arbre, c'est une bonne façon de voir sans être vu. Les snipers se mettent dans des arbres, pas au ras du sol. Alors, certainement, Zachée avait-il un angle de vue parfait pour observer Jésus, mais aussi une cachette parfaite pour ne pas être embêté par Jésus, voire sans être vu. Eh bien, cela signifie bien que le rédacteur veut nous faire comprendre que dans la rencontre, c'est Jésus qui a l'initiative. C'est Jésus qui lève les yeux et qui dit à Zachée, hâte-toi de descendre et je vais venir chez toi. Ce n'est pas Zachée qui lui dit, accepteriez-vous d'entrer dans mon humble demeure ? Non, non, c'est bien Jésus qui prend l'initiative. Quelle est la conséquence de cela ? C'est qu'il faut bien comprendre que c'est le Fils de l'homme qui nous rejoint. C'est l'humanité qui nous rejoint. Ce n'est pas nous qui, à la force du poignet, créons notre humanité. En général, quand on veut soi-même devenir humain, on devient assez vite barbare. Je veux dire par là que lorsqu'on élabore nous-mêmes, seuls, les critères de l'humanité, en général, ça devient impossible à vivre. C'est de l'ordre de la tyrannie et de la dictature. Rien de pire que la tyrannie des bons sentiments, d'ailleurs. Ce texte nous dit autre chose aussi. C'est que Zachée, qui est manifestement un homme seul, puisqu'il n'a pas quelqu'un qui pourrait le prendre sur ses épaules, par exemple, ou l'aider à frayer un peu son chemin parmi la foule. Zachée est un homme seul, et ce texte nous dit aussi que l'humanité fraye son chemin à travers tout ce qui peut faire obstacle à son arrivée jusqu'à nous. L'humanité fraye son chemin pour nous rejoindre jusque dans notre isolement. Nous pouvons être assaillis par un sentiment de solitude terrible, peut-être même de déréliction, ce sentiment d'être abandonné par Dieu. En fait, ce texte nous dit que la grâce divine vient à nous en toutes circonstances, même lorsqu'il y a des empêchements, même lorsqu'il y a des obstacles a priori majeurs. Et elle vient nous provoquer. Elle vient nous chercher. C'est le deuxième point. Non seulement l'humanité vient, mais elle vient nous chercher. Elle ne vient pas simplement être présente, elle vient nous provoquer, nous stimuler. Elle vient nous solliciter, elle vient nous réveiller. Zachée n'invite pas Jésus, je vous l'ai indiqué. C'est Jésus qui s'invite chez lui. Et cela le remplit de joie. Au fond, l'humanité rejoint cet homme qui n'avait peut-être plus trop d'espérance et il est traversé par la joie parce qu'il découvre qu'il est au bénéfice de plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Ce Jésus incarne bien le berger qui va chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Au fond, il va chercher Zachée alors que Zachée pensait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour lui. Dire que le Fils de l'homme est venu chercher, c'est expliquer que Dieu nous rejoint dans notre état, quelle que soit notre situation, dans notre misère humaine, pour reprendre un peu une expression religieuse, dans notre situation pécheresse, pour reprendre une expression théologique, mais non pas pour être avec nous, mais pour nous en tirer, pour qu'il y ait du changement, pour que ça change. Et c'est la raison pour laquelle cette traduction que nous avons du Notre Père n'est pas toujours très fameuse quand nous disons « ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Le texte grec dit plutôt « ne nous emporte pas ». Le verbe « eisphéro » fait règne, porter et « eis » jusque dans. « Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, du malheur ». Parce que bien souvent, notre spiritualité consiste à dire « Oh là là, ça ne va pas, ça serait tellement mieux que Dieu soit avec moi ». Mais la spiritualité chrétienne ne consiste pas à assurer une présence statique de Dieu. Quand Dieu est là, il faut que ça change les choses. Vous voyez, être croyant, avoir Dieu pour soi et finalement avoir la même vie que tout le monde, peu de bénéfices. La spiritualité, c'est demander à Dieu d'être là pour nous sortir de cette situation, pas pour nous rendre la situation supportable, pas pour que nous finissions par nous résigner gentiment et que nous prenions toutes les mauvaises nouvelles avec le sourire, pas pour que nous devenions en quelque sorte indifférents au malheur. Non, pour que ça cesse, pour que nous sortions d'une situation invivable. Le Fils de l'homme vient pour chercher, pour sortir des situations impossibles, inhumaines. Cet homme était riche. Il était grand d'un point de vue financier. Il avait certainement une position sociale que beaucoup pouvaient envier. Mais en réalité, il était petit. Eh bien, le fait qu'il soit petit n'a pas été un obstacle pour Dieu. Dire que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, c'est dire que des gens comme Zachée et sa petitesse sont au bénéfice de l'amour de Dieu. Quand nous nous sentons vraiment ridicules au regard des enjeux internationaux, lorsque nous considérons que nous sommes peanuts face aux problèmes sociaux, lorsque dans une communauté nous avons l'impression d'être comme transparents, vraiment tout petit, eh bien ce texte nous rappelle que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, et ce qui était perdu, c'était un être tout petit, qui en fait n'avait pas beaucoup de valeur manifestement, et néanmoins il a été récupéré par Dieu. Cela signifie que Dieu vient nous chercher là où nous en sommes de notre vie, peut-être là où nous en sommes de notre absence de vie. Et du coup, nous n'avons pas à redouter d'être, en quelque sorte, des croyants qui ne sont pas avec une grande superbe. Vous savez, quand vous avez le sentiment que vous n'arrivez plus à prier, quand vous considérez que vous ne connaissez pas trop votre catéchisme par rapport à ces personnes qui, elles, au contraire, semblent connaître la Bible sur le bout des doigts. Eh bien, l'intimité avec Dieu reste possible. Ce n'est pas parce que notre vie serait exemplaire que Dieu viendrait à nos côtés. C'est bien parce que Dieu va venir à nos côtés que notre vie va devenir exemplaire. Et c'est ça qui va donner de la valeur à notre vie. Ce mouvement de Dieu qui consiste à venir chercher ce qui était perdu, c'est le sens même de la grâce. Dieu vient nous récupérer dans notre misère, dans notre malheur, et peut-être même des fois dans notre sentiment que tout va bien. Au fond, est-ce que Zachée allait si mal que ça ? Était-il frustré de quoi que ce soit ? Était-il en colère ? Était-il malheureux ? On peut imaginer que tout allait bien, qu'il avait tout ce qu'il fallait. Sauf qu'en fait, il lui manquait l'essentiel, l'humanité, prendre soin de l'autre. Considérer que l'autre n'est pas un paillasson sur lequel il est possible de s'essuyer les pieds ou celui sur lequel il est possible de faire son bonheur. C'est la raison pour laquelle il va dire que s'il a fait tort à quelqu'un, alors il rendra au quadruple. Jusque-là, au fond, il ne se préoccupait pas tellement du sort des autres. Ce que les autres pouvaient vivre, endurer, ressentir, cela ne le tracassait manifestement pas beaucoup. Alors il y a donc du changement. Et le Fils de l'homme est venu sauver Zachée d'une situation où, manifestement, il n'était pas tellement pénétré d'humanité. Quand on regarde ce qui se passe pour Zachée, nous comprenons que le Fils de l'homme nous sauve de notre absence d'humanité. On peut toujours se demander en quoi Jésus est notre sauveur. Alors, il peut nous sauver de bien des choses. Ici, parce qu'il est lui-même nommé comme le Fils de l'homme, nous fait comprendre qu'il nous sauve de notre manque d'humanité. Zachée avait perdu de vue l'humanité et le voilà à nouveau avec l'humanité dans son horizon personnel. C'est cela que le Fils de l'homme provoque. Dieu, c'est ce qui nous rend plus humains, en fait. C'est ce qui met en évidence notre responsabilité à l'égard de ces personnes qui s'avèrent être des frères et des sœurs en humanité. Aussi bien ceux qui sont pauvres que ceux auxquels j'ai pu faire du tort. Dieu, c'est ce qui donne finalement une autre orientation à nos actes. C'est ce qui lui donne une nouvelle orientation. C'est ce qui donne à notre vie un nouveau sens, ou peut-être tout simplement du sens. Dieu qui vient nous chercher pour nous provoquer, pour que nous ne restions pas sur notre quant à soi. Dieu qui vient nous chercher pour nous arracher à une vision définitive des situations. En conséquence, Dieu nous sauve en faisant venir de l'humanité dans notre manière de voir, dans notre manière d'appréhender ce qui nous entoure. Au fond, nous pouvons avoir une manière froide et calculatrice d'envisager les relations avec les personnes, sur le principe du donnant-donnant. Est-ce que ces personnes valent vraiment la peine que je leur parle ? Qu'est-ce qu'elles vont m'apporter ? C'est souvent comme cela qu'on envisage les relations humaines. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter, cette personne ? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine, du coup, que je l'appelle ? Eh bien, pour ce qui concerne Jésus, ce n'est pas du tout ainsi que les relations sont envisagées. La question est non pas ce que cette personne va m'apporter, mais ce que je vais pouvoir provoquer en elle. Et du coup, ça change tout. La grâce comme un don, et pas comme une économie de l'équivalence où je donne, en espérant souvent recevoir encore plus. Nous pourrions faire cela, nous aussi. Non pas considérer que celui qui se tient à nos côtés pourrait devenir notre ami, parce qu'au fond, il a une culture intéressante et qu'il va me faire découvrir des choses de la vie montpelliéraine. Non pas parce qu'il aura une position sociale qui me permettra de passer de bons moments avec lui, qu'il connaîtra des gens qu'il pourra me faire connaître et qui me permettra d'augmenter mon réseau social, etc. Non, imaginez que l'autre, ce puisse être Zachée, que nous puissions être agents de la grâce et que nous nous invitions chez lui, dans son intimité, par-delà le jeu social que nous jouons lorsque nous venons au temple, où tout va bien, où nous faisons bonne figure. Peut-être que nous serions bien inspirés de reprendre ce verset à notre propre compte et considérer que le Fils de l'homme ne peut pas venir et chercher ce qui est perdu s'il n'y a pas aujourd'hui encore des personnes qui incarnent cela et qui s'invitent chez les uns et chez les autres pour provoquer un sursaut d'humanité, pour ressusciter une humanité qui parfois est passablement blessée. Ce texte nous fait découvrir qu'il est peut-être, par-delà notre situation ecclésiale, possible d'établir un nouveau pacte social. Considérer que nous n'avons pas à nous intéresser simplement aux personnes qui en valent la peine, mais qu'il peut y avoir une option préférentielle pour ceux qui ont besoin d'humanité. Je sais que c'est un peu mon dada et je ne voudrais pas vous accabler une fois de plus avec ça, mais la charité chrétienne est au cœur de notre vocation, l'amour du prochain. Mais ici, Zachée ne donne pas à manger, ne donne pas de quoi se couvrir. Ce qu'il offre, c'est ce sursaut d'humanité. Et ça, on le donne rarement à ceux qui en ont vraiment besoin. Je veux dire que dans notre action d'entraide, au sens large du terme, pas simplement à travers l'association d'entraide protestante, quand nous intéressons-nous vraiment à l'humanité de celui qui se tient là, en face de moi? Oui, nous sommes capables d'offrir des biens matériels qui lui permettront de survivre, mais nous sommes comme Dieu dans ce cas que nous appelons pour être avec nous, sans nous arracher au malheur. Quand sortons-nous vraiment les gens d'une situation inhumaine? Bien souvent, je pense que nous les maintenons dans des situations épouvantables, en leur donnant de quoi survivre, mais en ne les arrachant pas au malheur, en ne les sauvant pas d'une situation qui est vraiment inhumaine. C'est-à-dire une situation dans laquelle nous n'aimerions pas vivre. Ouais, c'est pas très compliqué, en fait. Individuellement, c'est pas facile, je vous l'accorde. Eh, mais on est nombreux. Collectivement, c'est plus facile de faire ce sursaut d'humanité chez ceux qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, grosso modo. Ceux que nous avons tant de mal à toucher. Parce qu'ils sont planqués. Ils sont dans les sycomores. Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ne veulent pas de rencontre. Ils veulent voir scintiller la ville. Ils veulent voir scintiller la gloire. Mais au fond, ils pensent que ce n'est pas pour eux. Nous, qui sommes pétris d'une foi chrétienne, authentique, pas toujours folichonne, mais authentique, au moins grande comme un petit grain de moutarde. Nous serions bien inspirés. Alors là, ce n'est pas de lever les yeux, c'est plutôt de baisser les yeux et de voir les gens qui sont au sol pour qu'ils puissent ressusciter dans leur humanité. Ensuite, faire bon accueil à la grâce, ça sera leur histoire. La foi, ce sera leur histoire. Nous, nous pouvons être agents de la grâce en prodiguant de quoi provoquer ce sursaut d'humanité chez ces personnes qui pensent en être complètement démunies parce qu'elles pensent être complètement exclues d'une société qui n'est plus faite pour elles. Le Fils de l'homme nous révèle que l'autre peut être celui qui a besoin d'un bon samaritain pour pouvoir panser ses plaies et ensuite devenir acteur de sa propre vie. Atteindre peut-être un degré supérieur d'humanité pour ceux qui ne sont pas au fond du trou. Alors, la question demeure, est-ce que tout cela est en capacité de pouvoir sauver les 360 000 meules de Modène? Quand il apprit ce qui était arrivé, un chef cuisinier, Massimo Bottura, eut l'idée d'élaborer la recette d'un risotto cacio e pepe, fromage et poivre, qui utiliserait ce parmesan. Quelqu'un eut l'idée de faire cuisiner cette recette à travers le monde pour vendre ce parmesan. Les 360 000 meules de parmesan furent vendues dans des kits risotto, vendus à travers le monde. Personne ne perdit son emploi. Pas un seul fromager ne ferma ses portes. Cette recette fut un geste de solidarité à travers le monde qui commua un drame en épopée. Là, c'est le pasteur qui vous parle. Je pense que nous avons ici la capacité spirituelle de commuer bien des drames en épopée. Pas sur le plan intellectuel, pas en imaginant comment changer la société française ou créer une paix universelle, mais dans notre bassin de vie, dans notre métropole. Je pense que collectivement, ensemble, nous avons la capacité de métamorphoser des drames en épopées. Encore faut-il que nous allions à la rencontre des personnes, en allant les chercher là où elles sont, en allant dans leur intimité, sans les violer, sans fracturer ce qu'elles ne veulent pas ouvrir, mais en allant les chercher là où elles se trouvent, pour les sauver de situations qui sont vraiment invivables. Je veux dire par là que nous n'aimerions pas vivre cela. Comment pouvons-nous accepter que ces personnes vivent cela? Ce qui était perdu à Modène fut recherché et sauvé. Eh bien, je crois que nous valons tous beaucoup plus qu'une meule de parmesan. Alors, faisons-en quelque chose. Amen. Le cantique 302 aux strophes 1, 2, 3 sera un cantique supplémentaire de l'Avent pour inscrire au plus profond de nous-mêmes cette dynamique qui nous conduit à Noël, une dynamique qui permettra de lever un matin sur chaque existence. Cantique 302, les strophes 1, 2 et 3, levons-nous pour cela. Thank you. Prenons place pour partager quelques informations. À l'issue du culte, ne partez pas trop vite. Un verre fraternel est organisé sous la tribune, donc faites plutôt un petit passage sous la tribune, certes pour grignoter un petit quelque chose afin d'affronter le froid avec suffisamment de calories, mais c'est un prétexte pour se rencontrer, pour faire connaissance, pour tisser des liens fraternels, parce que c'est la condition de travailler sur le collectif, comme dirait Didier Deschamps, qu'on pourra remporter les victoires qui sont devant nous. Peut-être que c'était plutôt Laporte qui disait ça, d'ailleurs, que Didier Deschamps. Les catéchumènes partiront avec moi à la faculté de théologie pour le catéchisme, donc on partira tous ensemble. Vous aurez aussi l'occasion d'acheter des calendriers de la CIMAD. C'est Elisabeth Bienvenue qui se tient à votre disposition pour vous vendre ces beaux calendriers qui accompagneront gracieusement votre année. Et puis aussi pour acheter les 6 dernières bouteilles de vin d'orange produites par le secteur Mer et Vigne. Soyons solidaires, achetons le vin d'orange du secteur Mer et Vigne et offrons-le si nous n'aimons pas le vin d'orange. Dans notre agenda paroissial, demain ici même à 18h30, j'engagerai un dialogue avec Numa Ambursin, qui est le directeur du MOCO. Le MOCO, c'est l'École supérieure des beaux-arts, c'est la Panacée, et puis c'est Montpellier Collection qui est juste à côté de nous, là, en face. Si vous aimez l'art, écoutez, c'est très bien, ça permettra d'approfondir la question de la liberté artistique, de la création artistique. Si vous n'aimez pas l'art contemporain, c'est l'occasion de découvrir comment quelqu'un qui est vraiment baigné dedans peut en dire des choses. Et si vous considérez que l'art contemporain, c'est plutôt n'importe quoi, on en parlera avec lui. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir continuer notre parcours sur la liberté avec ici la dimension de la culture. Vous avez de toute façon toutes les informations sur votre feuille d'annonce. J'attire votre attention sur le fait qu'il y aura un concert ici même à 18h samedi prochain. Ode à la paix, c'est un duo qui parcourra tout un tas de chansons depuis Johann Sebastian Bach jusqu'à Jean Ferrat pour inscrire un peu la paix dans notre registre musical. Quand nous chantons sous la douche, autant chanter des chansons de paix. Il y a aussi la veillée de Noël qui est programmée le 24 décembre à 18h30. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on continuera avec un repas ici. Chacun apporte un plat à partager et comme ça, ceux qui sont seuls, ceux qui ne le sont pas, mais ne veulent pas laisser des gens seuls, continueront ici et il y aura quelques animations pour passer une bonne veillée de Noël ensemble après la célébration qui est à 18h30. Ça va être le moment de l'offrande, c'est l'occasion pour moi d'exprimer une forme de reconnaissance. On est au mois de décembre, donc on a quand même une vue des finances à peu près claire. Donc vous remerciez parce que il n'y a pas eu de décrochage massif. Très concrètement, on est à moins 1% de recettes par rapport à l'an dernier à la même époque. Compte tenu de la situation économique, de l'inflation, des incertitudes, etc., cela indique que vous avez fait un vrai effort de générosité pour continuer à faire en sorte que notre vie d'église puisse se maintenir dans de bonnes conditions. Bon, maintenant, on a le droit d'avoir un peu d'orgueil et de se dire « Et si on faisait plus 1% par rapport à l'an dernier ?» Je pense que ce serait formidable comme témoignage de foi. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous faites plus de pourcent, il n'y a aucun problème. Zachée donne 4 fois plus. Bon, quand il fait du tort, là, vous n'avez fait de tort à personne. Bon, c'est le moment d'offrir à l'Église les moyens dont elle a besoin pour toutes ses missions. Des missions, il va y en avoir. Ne lésinons pas et bonne offrande à chacun. Thank you. Ben, je l'ai dit. Nous allons maintenant nous unir dans la prière d'intercession. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est l'hésitation, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Père, fais toutes choses nouvelles dans notre cœur et dans le monde, à travers nous, de telle sorte que puisse s'accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, et que nous disons en communion avec les membres de tout ton peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vient demeurer aujourd'hui chez nous, chez les nôtres et chez les autres. Frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. Il porte sur nous son regard et nous accorde sa grâce. Vers nous, Il tourne sa face et nous donne sa paix, en tout temps et en toutes circonstances. Amen.